Bonjour, comme un bruit qui court sur France Inter, une heure de reportage où les idées circulent plus vite que les personnes, mais quand même moins vite que les capitaux.
Cette semaine, nous irons au Mexique, insurgés contre la terreur du narcolibéralisme au pouvoir. Au Luxembourg, avec Give, dans la tempête LuxLeaks, qui secoue la place financière. Et à Calais, avec Gaylor, qui est avec nous cette semaine pour rencontrer les migrants confrontés à la politique migratoire européenne.
Comme un bruit qui court, en direct du studio 611 de la Maison de la Radio, une heure à feu et à son, réalisée par Jérôme Chelius, assisté de Karen Dehay. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Alexandre Chenet.
Les Luxembourgeois sont des gens très honorables, mais il y a certains qui ont fait un système qui met notre pays dans le coin des salopards qu'on ne mérite pas du tout.
Trop sécurisé, il y a trop de contrôle, j'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Fortunes diverses. Pendant qu'à Calais, les migrants s'échouent au pied des murailles du Nord, qui deviennent un marché, ces migrants. Des citoyens luxembourgeois, après les révélations LuxLeaks, dénoncent l'hypocrisie de leur paradis fiscal natal. Au Mexique, la société civile, traumatisée par la disparition des 47 étudiants de l'école d'Ayotzinapa, s'organise et dénonce un système corrompu et abreuvé de narco-dollars. Un narco-capitalisme qui fait feu de toute violence pour préserver ses gains au détriment de la vie et de la justice sociale.
Antoine Chao. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Et en ces temps de pessimisme ambiant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Non, à comme un bruit qui court, nous avons cherché et trouvé un domaine dans lequel la France est performante. Oui, performante. Et il y en a un, la lutte contre l'immigration illégale. 50 000 expulsions l'année dernière, un record, 45 000 personnes placées en centre de rétention, une baisse des demandes d'asile alors qu'elles augmentent partout ailleurs en Europe, signe du durcissement des procédures. Mais surtout, un Français a été nommé à la tête de l'agence européenne Frontex, cocorico. Frontex, vous ne connaissez pas ? C'est l'organe de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Une agence dotée d'une force militaire, de sa propre diplomatie et d'un budget annuel de 100 millions d'euros pour lutter contre ces flux migratoires. Car il s'agit bien pour les gouvernements de contrer cette menace au même titre que l'on combat le terrorisme. Technologie de pointe, vidéosurveillance, détecteurs de dioxyde de carbone, scanners géants, prélèvement d'empreintes et déploiement policier. Direction l'Europe barbelée, à deux pas de chez nous, juste là, dans le nord de la France, à Calais.
On va partir en Angleterre.
J'ai jamais vu autant de migrants en ce moment à Calais.
Pourquoi en Angleterre ?
Dans l'asile.
Plus facilement que la France ?
Plus facilement, parce qu'en Angleterre, on peut trouver des boulots.
Partout, il y a des migrants. C'est effarant, j'en ai jamais vu autant.
Calais, nous sommes au bout de l'Europe migratoire quasiment. Les côtes italiennes de Lampedusa. Bien, les migrants remontent ici vers Calais pour tenter de passer en Angleterre. Et aujourd'hui, dans la ville, ils sont un peu plus de 3000. Et on va se diriger vers le port. 7 degrés. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui, Philippe.
Non. C'est pas un temps pour faire du camping.
Vous êtes Philippe Vinson, vous pouvez vous présenter ?
J'habite Calais depuis presque 6 ans maintenant et je m'occupe d'un blog qui s'appelle Passeurs d'Hospitalité et j'essaie d'être sur le terrain au quotidien avec les exilés et puis avec d'autres Calaisiens.
Justement ici à Calais, beaucoup de gens qui, entre guillemets, font du camping.
Oui, camping non choisi, mais du camping quand même parce que les contrôles sont de plus en plus difficiles à franchir en fait. Et aussi parce que la France a une politique de non-accueil qui est assez efficace en termes de dissuasion.
L'année 2014 décroche un triste record, celui du nombre de décès parmi les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée vers l'Europe.
Plus de 3000 sont morts en tentant la traversée cette année.
L'Organisation internationale pour les migrations estime ce nombre à 3072, rien que depuis janvier. Après la Méditerranée, les zones où les décès liés aux migrations sont les plus nombreux sont l'Afrique de l'Est, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, le golfe du Bengale et la corne de l'Afrique.
Il y a une partie des gens qu'on va voir, donc des Syriens et des Irakiens qui sont sous le auvent du hangar qu'on voit là-bas au bout, et puis d'autres qui sont sous le porche de l'église qui est en face du phare là-bas. Il y a à peu près, on estime, 3000 personnes. Beaucoup d'Africains de l'Est, érythréens, éthiopiens, soudanais, mais aussi des gens qui viennent d'un peu tous les pays en conflit, Afghanistan, ou les dictatures, Iran, Syrie bien sûr.
Des gens qui viennent de pays en guerre, qui ont fui des conflits.
Ouais.
Là, il y a un ferry qui part vers l'Angleterre.
Il y a à peu près un ferry toutes les 20 minutes. Pourquoi il y a beaucoup plus de monde à Calais que dans les autres ports? C'est aussi parce qu'il y a à la fois le port, effectivement, et puis il y a le tunnel. Deux possibilités de monter dans les camions qui vont traverser pour aller au Royaume-Uni.
On s'approche de ce hangar. Effectivement, sous le vent, il y a plutôt des hommes, hein, des jeunes hommes, qui ont créé un petit camp de fortune.
Oui, c'est un bivouac, il n'y a pas de tente. Hein.
Je propose de nous asseoir. Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Omar.
Je m'appelle Omar. Je viens de Syrie.
Damascus.
De Damas.
Before 2 months.
Ça fait deux mois que je suis ici.
There is nobody safe in Syria.
Personne n'est en sécurité en Syrie.
Fight, just,
là-bas, je ne combattais pas. J'étais journaliste activiste.
I write something about free army.
J'ai dû quitter le pays parce que j'ai filmé et écrit des articles sur l'armée libre syrienne que j'ai diffusé sur Internet.
Quand est-ce que tu es parti?
Before 2 years ago.
Ça fait 2 ans maintenant. J'ai quitté Damas, je suis passé en Turquie, en Grèce, en Macédoine, puis en Serbie, en Croatie, en Slovénie, puis en Italie, et enfin ici en France.
Pourquoi tu es venu ici à Calais?
Parce que je veux rejoindre la Grande-Bretagne. J'ai trois de mes frères qui y vivent. J'essaie de passer à bord des camions, parfois en me cachant dessous. Je tente même ma chance par la Belgique avec des passeurs.
Combien ça coûte?
Ça dépend des passeurs. Le minimum, c'est 1500 livres, 1900 euros.
Combien de fois tu as essayé de passer en Angleterre jusqu'à présent, depuis 2 mois que tu es à Calais?
Like 200, 100.
Quelque chose comme 1000 ou 2000 fois.
In one night, maybe 3 times.
En une nuit, je fais 3 ou 4 tentatives.
Now it's very hard, you know.
C'est devenu vraiment très difficile. Les barrières font 4 mètres de haut et il y a beaucoup de...
barbelés.
Yeah, oui. But we find our way.
Mais on va trouver une issue.
Tu vas essayer ce soir de passer?
Sure.
Oui, bien sûr.
Sure, I have to.
Je dois le faire.
Yeah, inshallah.
Si Dieu veut, j'y arriverai.
Inshallah, I will.
Voilà, il y a des couvertures partout, des bâches. Bonjour, bonjour. Hello. Ça va?
Yeah, ça va bien.
You speak English?
Français, je peux parler français.
Toi, tu t'appelles comment?
Je m'appelle Mahdi.
Mahdi.
Mais...
Et là, vous êtes que des Syriens? C'est les Syriens ici?
Juste des Syriens, oui. On est trop galéré, on dormir dort, franchement j'ai mal au dos. Moi ça fait un an que je suis là. Ça fait un an que j'ai en train d'essayer de partir en Angleterre, mais je trouve pas la solution. Parce qu'il n'y a plus de passeurs.
Il n'y a plus de passeurs?
Il n'y a plus de passeurs, non. Ben, ils ont nettoyé le gouvernement. Trop sécurisé, il y a trop de contrôle, j'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris.
Et du coup, vous êtes dans une situation illégale?
Illégale, mais moi, j'ai sans papier.
Qu'est-ce que tu veux faire en Angleterre comme travail?
Je vais aller les voitures.
T'as la famille déjà là-bas, en Angleterre?
J'ai perdu toute la famille. Je vais partir pour chercher un femme pour marier, pour faire les enfants et pour chercher le bonheur.
Il y a un petit réchaud, là, une petite bouteille de gaz.
Pour faire le café, le thé.
Là, je vois une marmite, il y a un réchaud.
À manger, ici, il y a une bouteille à gaz à deux. Il y a des assiettes, il y a du lait.
Ça c'est quoi? C'est des clémentines?
Il y a des clémentines, il y a du iced tea, il y a des couvertures.
Vous avez les matelas, les couvertures, vous dormez
dehors. On est comme les SDF.
Merci Nadi.
Il n'y a pas de souci, hein, normal.
Voilà, donc ça c'est le terminal des ferries. Une zone hautement stratégique. En termes de politique migratoire européenne, de gestion des flux, parce que c'est ça qui l'importe maintenant, gestion des flux migratoires, rationalisation et politique sécuritaire. Alors, il existe une agence de sécurisation des frontières européennes qui s'appelle Frontex, qui œuvre activement depuis à peu près 10 ans pour gérer les flux migratoires dans l'espace européen.
Aux frontières de l'espace européen, de gérer aussi des retours
c'est-à-dire des expulsions, organisées par plusieurs États. Vous avez 40 Nigérians expulsés au Nigeria. Ça tombe bien, l'Espagne en a 20 et le Royaume-Uni en a 30.
Donc on regroupe les migrants.
On fait appel à Frontex qui fonctionne comme une agence de voyage à sa manière. C'est le business de l'immigration, c'est-à-dire tous ces trucs de drones, de caméras infrarouges, de vidéosurveillance,
de vendre du matériel.
L'une des choses invisibles de Frontex, c'est de traîner dans tous les salons possibles et imaginables sur la vente de ce genre d'objets, et du coup de mettre en lien et de faire tout un relationnel entre les entreprises qui produisent ces technologies et puis les acheteurs potentiels que sont les États et les polices.
Ça, c'est hyper bien, Philippe Vanson, pour notre économie. On vend de la technologie de pointe, des caméras infrarouges, etc. Tout un système sécuritaire, ça fait marcher notre innovation, l'innovation française.
Alors, on pourrait se dire aussi, par exemple, qu'à Calais, il y a plein de logements vides et il y a plein de gens qui vivent dans des logements en mauvais état, voire insalubres. Et on pourrait investir le même argent à faire de la rénovation écologique de logements. Et du coup, on résorberait le mal logement et on pourrait loger les exilés en plus.
Oui, moi, je vous parle d'innovation, je vous parle du PIB français, de la croissance, quoi, de la haute technologie.
Pour ce prix-là, on pourrait régulariser les gens qui, en plus... aucune envie, c'est de trouver du boulot. Mais du coup, si on les régularise, ça veut dire qu'on les exploite légalement avec les garanties du droit du travail, un salaire minimum, des droits sociaux, etc. Alors que s'ils restent sans papier, qu'ils sont sous la pression du risque de l'expulsion, qui fait que bah, on se cache, on est dans l'insécurité, et on est d'autant plus fragile et exploitable. Donc c'est un système qui fonctionne bien pour produire de la main-d'œuvre sans papier. Enfin, je pense que c'est son côté le plus efficace. Ce qui est complètement contre-productif, mais ce qui est la logique des pouvoirs publics actuellement.
Derrière le pont, on a plusieurs centaines de personnes qui sont réunies, en majorité des gens d'Afrique noire. Parce qu'il y a une distribution alimentaire qui se fait tous les soirs à Calais vers 17h. Et c'est des gens là qui attendent dans le froid pour avoir à manger au quotidien des migrants de Calais.
Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis.
Et là, c'est quoi le menu ce soir?
C'est un plat tout en un. La base, c'est du riz, il y a la viande, les légumes, la salade, il y a tout ce qu'il faut pour survivre.
Survivre.
Bah oui, on parle que de survie ici, hein.
Entends-tu, citoyen, le barbare mugissement qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants? Aux armes patrouilleurs, refoulons les haillons. Tous à vos détecteurs, scannez-moi ces camions.
C'est le début du désespoir, c'est ici que cesse l'humanité.
À coups de barbelés, de clôtures électriques, certains se mettent à rêver de frontières électroniques. À coups d'accords secrets signés à la va-vite, l'Europe s'est enfermée, plus qu'elle ne s'est construite. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie,
et les frontières de l'Union européenne restent largement aujourd'hui les plus meurtrières au monde, avec plus de 3000 personnes qui ont trouvé la mort cette année, trois fois plus qu'en 2013, soit les trois quarts des victimes de migration dans le monde. Si l'on meurt en silence aux frontières de l'Europe, direction maintenant le Mexique avec Antoine, où les voix s'élèvent contre l'impunité de ce narco-État.
Comme un bruit qui court.
Et là, c'est le décompte jusqu'à 43 pour rendre hommage aux 43 disparus. Justice pour les 43, les 43 disparus d'Ayotzinapa.
Es México,
Il en manque 43 à l'appel de l'école d'Ayotzinapa au Mexique. Il en manque même 7 de plus depuis 2011. Mais ceux-là, on sait où ils sont. On sait qu'ils ont été abattus par la police, en toute impunité. Être pauvre au Mexique ou noir aux États-Unis peut avoir les mêmes conséquences dramatiques. Mais aujourd'hui, c'est la fête à Chilpancingo, capitale de l'État de Guerrero au Mexique. Et à grand renfort de pétards et de fusées d'artifice, on célèbre, en ce samedi 22 novembre, la Virgen Santa Cecilia, la Vierge Sainte Cécile, patronne des musiciens mexicains. Toute guitare dehors, les paroles des corridos, chansons sociales populaires, racontent le Mexique, le meilleur et le pire. Les corridos de la Révolution côtoient les narco-corridos sur les stands des vendeurs ambulants. Bienvenue au Mexique, Eldorado du narco-libéralisme, mais où la résistance s'organise. C'est la place centrale de Chilpancingo qui est occupée par les professeurs qui se sont installés ici depuis plusieurs semaines. Il y a des centaines et des centaines de tentes, il y a des banderoles tout autour. Donc là, il y a le palais du gouvernement où une grande banderole a été tendue. Nous exigeons un jugement politique et que les responsables du massacre d'Iguala soient condamné. Et donc c'est le palais du gouverneur, donc le gouverneur qui a démissionné, qui a été obligé de partir. Fuera asesino, dehors assassin, Aguirre narco gobernador. Aguirre est un narco gouverneur et il a été donc obligé de démissionner. Nous sommes des enseignants et nous occupons cette place de Chilpancingo, la capitale de l'État de Guerrero. C'est notre façon à nous, au corps enseignant de Guerrero, de mettre la pression pour exiger le retour en vie des 43 étudiants. Et dans cette histoire, il y a déjà eu l'assassinat de 6 personnes, dont 3 étudiants de l'école d'Ayotzinapa et plus de 25 blessés. Et le seul délit de ces gens, c'est d'étudier et de lutter pour des meilleures conditions de vie dans leur école. C'est ça leur unique délit. Il y a eu aussi l'assassinat de 3 citoyens. Un footballeur de l'équipe locale de l'État et une femme qui passait en taxi. Nous sommes ici pour condamner les politiques de répression qui sont menées contre notre peuple de travailleurs
et pour
condamner l'enlèvement des 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa. Ils les ont emmenés vivants et c'est vivant que nous voulons les retrouver. Et il faut qu'ils sachent que tous unis, Ayoxi, nous sommes tous des étudiants d'Ayotzinapa. Moi, je suis diplômé de cette école et je suis indigné par ce qui s'est passé. Et pas seulement ce qui s'est passé dans mon école. Ce qui me fait mal, c'est ce qui se passe dans cet État et dans ce pays. Avec ce fléau de gouvernement, de narco-politiciens que nous avons dans notre pays. Malheureusement, les gens ont été trompés et il est temps qu'ils se réveillent. La mafia a infiltré les différents partis politiques. Et ça a généré la défiance sociale. Et ça a généré une quantité de morts.
Donc, c'est un problème assez sérieux.
Alors c'est un problème sérieux de sécurité au niveau national et au niveau de l'État aussi, parce qu'on a pu constater et prouver que ce sont des policiers qui ont enlevé les jeunes étudiants. Des policiers municipaux
et
peut-être même des militaires et des policiers de l'État de Guerrero qui auraient remis les étudiants à la mafia des Guerreros Unidos. En pensant qu'ils allaient comme ça calmer et bâillonner le mouvement. Mais ils se sont trompés parce que le peuple est fatigué de tant d'injustices.
El pueblo ya está cansado de tantos masacres.
Le peuple est fatigué de tant de massacres. Il est fatigué de tant d'anomalies qu'accomplissent ces mauvais gouvernements.
Algo esconden estas autoridades.
Les autorités nous cachent quelque chose.
Algo esconden.
Et c'est justement ça, ce qu'elle nous cache, qu'il nous faut comprendre.
Ayoxi está de luto, o sea, Ayotzinapa.
Ayotzinapa est en deuil.
Así es, y dice así. Voy a cantar un corrido.
Je viens vous chanter un corrido.
De mi querida normal acaba de suceder.
Au sujet de ma chère école normale rurale où il vient de se dérouler un drame.
Una tremenda injusticia.
Une terrible injustice.
Pedimos justicia.
Nous demandons justice.
Justicia es el clamor.
Et c'est la justice que clament tous les étudiants
de todos los estudiantes
et toute la population.
De toda la población.
Radio Universidad Autónoma de Guerrero, del pueblo y para el pueblo. UAG.
La radio universitaria es la emisora que está muy vinculada con los sectores sociales, con estas causas nobles, como es el caso de Ayotzinapa.
C'est la radio de l'université qui est très engagée dans tout ce qui se passe en ce moment au Mexique et tous les mouvements sociaux. Et cette radio a été très impliquée dans cette histoire d'Ayotzinapa.
Dar también voz a los sin voz en México.
Pour donner à entendre la voix des sans voix au Mexique.
Estás escuchando XEUAG, Radio Universidad Autónoma de Guerrero.
Alors là, on est en voiture dans Chilpancingo et on écoute la radio de l'Université Autonome. On est avec le Victor Hugo, le directeur de cette radio, et on va aller à l'école d'Ayotzinapa, justement, donc, qui est occupée par les familles.
Nous sommes à 15 km de Tixla et Ayotzinapa est à l'entrée.
On est à 15 km d'Ayotzinapa.
C'est un jour de rencontres avec visites de familles.
C'est un jour de rencontres et de visites d'amis des familles, d'amis des étudiants qui viennent amener des vivres, de la nourriture. Il y a aussi des organisations religieuses qui viennent célébrer des messes pour que les 43 élèves réapparaissent. Il y a aussi d'autres universités, d'autres écoles qui viennent apporter un secours médical, psychologique aussi. Il y a aussi des organisations de défense des droits humains, non gouvernementales, et beaucoup d'autres actions qui sont menées à travers l'Assemblée nationale populaire. Les universités nationales du pays, toutes les écoles normales, les organisations sociales se sont regroupées avec la société civile.
UAG.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí en su calillacho, el calillacho y medio que se quichis. Puerto Rico, Nación Mantapacha, Paikuna, Sutigmi, Calle 13.
Cancún.
Las patas de Jesús, Taquita, Pomonchis, Yaitaki, Sutigmi, Latinoamérica. Uy, ahí, Jesús.
Soy lo que dejaron, soy toda la sombra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera.
On est sur la route de Chilpancingo qui nous emmène à l'école de Ayotzinapa. Et c'est une route sinueuse au milieu des montagnes. Donc c'est une région très montagneuse ici, l'état de Guerrero. Tixla, 40 000 habitants.
Voilà, on arrive. École normale rurale d'Ayotzinapa. C'est juste à l'entrée, le TIX là, l'école rurale normale. Et donc il y a un grand porche rouge, un peu décrépi, défraîchi. Et voilà, on s'engage dans une petite route. C'est en pleine nature. Et les familles des jeunes étudiants disparus campent, occupent l'école et attendent. Qu'à une centaine de kilomètres d'ici, à Iguala, on retrouve leurs enfants ou une trace de ce qu'ils sont devenus. Et là, sur le portail donc, de cette école, il y a deux tortues en fer forgé qui ornent un grand portail noir. Voilà, Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ah, donc là, il y a des élèves là, qui accueillent Periodista. Donc, il y a un petit comité d'accueil de jeunes les élèves de l'école. Alors, c'est grand. Il y a des vieux bâtiments en pierre. Il y a des banderoles. Trabajadores de la Normal de Ayotzinapa. Les travailleurs de la normale, de l'école normale d'Ayotzinapa, nous exigeons que les assassins des normaliens soient jugés, punis et la destitution des fonctionnaires qui sont complices. Ayotzinapa unida jamás será vencida. Ayotzinapa uni jamais sera vaincu. Là, c'est énorme, il y a des bâtiments alors, qui sont tous peints avec des couleurs vives, des dessins, des beaux dessins. Il y a un grand gymnase couvert. Donc il y a des repas collectifs qui sont pris dans le gymnase, ouvert à tout vent, mais couvert. Alto al terrorismo de Estado. No le temo a la represión del Estado. Le temo al silencio de mi pueblo. Je ne crains pas la répression de l'État. Je crains le silence de mon peuple. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Ceux qui meurent pour la vie ne peuvent pas s'appeler des morts. Comité de lucha, le comité de lutte. Et donc il y a un pochoir d'une tortue, parce qu'ici, donc à Ayotzi, c'est la tortue. Ayotzinapa vive et la lucha sigue. Soy lenta, je suis lente, mais implacable. La justice, la justicia.
Buenos días, soy Salvador de Jesús García.
Bonjour,
Chilpancingo Guerrero.
Je suis Salvador Jesús García.
Quiero dedicar una canción
de Chilpancingo, dans l'état de Guerrero.
De Ayotzinapa. Los 43,
je dédie une chanson aux étudiants d'Ayotzinapa, les 43 camarades qui sont disparus, pour les familles, pour les diplômés de cette école normale,
para todo el pueblo, para todo el mundo
et pour tout le monde, pour tous ceux qui ont soutenu les normalistes,
porque nos faltan 43.
Parce qu'il nous en manque 43 à l'appel. Aujourd'hui, je ne chante ni à l'amour ni au malheur. Aujourd'hui, je veux chanter à mon pays. Et surtout aux habitants de l'état de Guerrero. Parce que je ressens la douleur qui transperce leur propre chair. Peuples insurgés à 100% d'une honnêteté remarquable dans l'histoire. Nous ne voulons plus supporter tant de faim, de misère et d'assassinat. Il nous en manque 43. Que meure le gouvernement oppresseur. Que le président Peña Nieto démissionne pour avoir trahi la patrie. Et vive Kualak, Huamaxitlan et Olinala, les communes libres de la montagne de Guerrero, qui sont des exemples pour toutes les villes du pays. Elles me rendent joyeux. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces quelques lignes.
On
est avec Aquilino qui nous fait visiter la ferme école. Il y a un gros cochon là. Et donc il y a une ferme école aussi ici.
Aquí este lugar es para las vacas. Ahorita se les dio
Bueno, se les abrió la tranca y están por allá. Algunos, mira, ya están.
Eso es por el bétail, hay las vaches, pero por el momento están al pré, elles se baladan, están là-bas, al bout du pré.
Ahí está el maíz. Sembramos así.
Y hay du maíz, de haricots.
Todo esto, pues, lo sembraron los de primer año.
Alors, tout ça, ça a été planté par les élèves de première année.
Sí, ahora pues está bien descuidado todo porque ahorita nos estamos dedicando pues a buscarlos a ellos.
Alors ça, pour l'instant, on s'en occupe plus parce que justement en ce moment, on les cherche les élèves de première année.
Casi la mayoría, casi uno nada más de segundo.
La majorité des 43, effectivement, ils étaient en première année. Il n'y avait qu'un parmi eux qui était en deuxième année.
Somos 522 de la base estudiantil. Somos los 522 que nos encontramos aquí viviendo.
On est 522 étudiants et nous vivons ici dans l'école.
Bien, la escuela se fundó el 2 de marzo de 1926.
L'école a été fondée le 2 mars 1926.
Ya 88 años de existencia. Es un sistema de internado.
Ça fait 88 ans d'existence.
Muchos de los estudiantes que
c'est un internat.
En esta escuela, pues, son de las regiones, de las 7 regiones del estado de Guerrero.
Mais aussi quelques-uns viennent d'ailleurs dans le pays, d'autres états.
En los 40, ¿no?
Dans les années 40, il y avait à peu près 37 écoles normales rurales.
Y hoy nada más quedan 17.
Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 17.
Rurales. Y pues la mayoría de todos los estudiantes que estudian
Et la majorité des étudiants qui viennent ici sont d'origine paysanne, rurale,
pauvre.
Et certains, comme moi, sont d'origine indigène. Je parle la langue nahuatl par ma mère. Et pour nous, l'existence de cette école est une chose importante. Parce que déjà depuis longtemps et depuis que je suis là, ils ont toujours essayé de la fermer cette école. Déjà en 2011, quand on est sorti manifester sur l'autoroute du Soleil à Chilpancingo, pour demander 140 places de plus dans l'école pour la rentrée, et tout ce qu'on a gagné, c'est l'assassinat de deux de nos camarades par la police, police municipale, celle de l'État et aussi la fédérale. Ils ont été exécutés et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'impunité qui prime dans cette histoire.
Todos los 43, las madres y los padres y
toutes
la familia,
familias, les pères et les mères sont
toda
là.
La familia están aquí en Ayotzinapa, pues están durmiendo pues ahí en las aulas, están durmiendo.
Ils dorment dans les salles de classe. Pues, ou alors ils partagent les chambres avec les jeunes. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'être ici, parce que tous les jours le soleil se lève et se couche, et on ne sait toujours rien de nos camarades. Mais on est là, on est tous là.
También queremos decir que de 2011 para acá en la gestión de Ángel Aguirre Rivero, el gobernador
aussi,
il faut dire de Guerrero,
que depuis 2011, avec la gestion du gouverneur de Guerrero et du sénateur, on a eu 7 camarades assassinés. Les deux premiers sur l'autoroute du Soleil, le 12 décembre 2011, encore deux autres le 7 janvier 2014, et les trois derniers, donc le 26 septembre, quand la police de Iguala a exécuté les trois camarades et a fait disparaître les 43 autres, dont nous n'avons pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Et ce jour-là, le 26 septembre, je n'étais pas là-bas, parce que je suis en quatrième année. Et on passe beaucoup de temps avec les enfants dans les salles de classe à enseigner. Et aujourd'hui, c'est 7 camarades qui ne sont plus avec nous. Et notre grande inquiétude, c'est que ce soit à nouveau l'impunité, comme pour les 4 précédents. C'est une irresponsabilité du gouvernement fédéral qui veut classer cette affaire. Mais nous, ici, à Ayotzinapa, on nous a appris à ne pas baisser la tête, à ne pas plier les chines. Comme les maîtres Lucho Cabañas et Genaro Vázquez, qui sont deux grands maîtres passés par cette école et qui sont deux grands exemples pour la lutte sociale et pour la lutte étudiante. Parce que c'est vrai qu'ici, à Ayotzinapa, on n'a jamais abandonné la population. On est dans les salles de classe, mais quand il faut sortir pour manifester et accompagner le peuple, on y va. On est des fils de paysans et cette école, elle appartient au peuple.
Quiero dar un mensaje en nuestra lengua. Materna, nahuatl de Guerrero.
Et moi maintenant, j'aimerais bien passer un message dans ma langue maternelle, le nahuatl de Guerrero.
Tlamachtili, Ayotzinapa, pero tehme shtimokahkahuasque, pampompon momachtilla miyek togniwan, anken shkipilla diontleno, anken shkipilla tomin, para yasi momachtis, okseka katlamachtilistli. El mensaje es que siempre las autoridades
toujours les autorités ont essayé de fermer cette école d'Ayotzinapa, mais nous on ne va pas les laisser faire, on ne va pas leur permettre. On sait qu'ici il y a beaucoup de nos frères qui étudient, qui n'ont absolument rien, qui n'ont pas d'argent pour aller étudier dans une autre école. Et c'est ça peut-être notre seul délit, c'est d'étudier ici à Ayotzinapa. À Paris, il vient d'y avoir une table ronde sur Ayotzinapa. On est mercredi 3 décembre, et donc il y a un amphithéâtre qui est plein alors d'étudiants ici en sciences politiques pour une rencontre avec John Ackerman, professeur invité à Sciences Po, professeur à l'Institut de recherche légale de l'Université nationale autonome du Mexique, l'UNAM, et Irma Sandoval, directrice du laboratoire de documentation et d'analyse de la corruption et de la transparence à l'Institut de recherche sociale, à l'UNAM aussi. Alors Irma Sandoval, vous parlez de corruption structurelle au Mexique.
Exactement.
La corruption au Mexique est une question structurelle que l'on ne peut pas considérer comme culturelle et encore moins comme mineure, mais plutôt comme quelque chose qui fait partie de la colonne vertébrale du système politique, dans sa collusion avec un système basé sur le profit effréné, système qui est contrôlé par les monopoles et les oligarques, qui fait que la corruption se manifeste par de l'abus de pouvoir, de l'impunité et un déni de citoyenneté. Ces trois éléments font de la corruption une affaire structurelle et que l'histoire d'Ayotzinapa nous a aidés à comprendre. Et je voudrais rajouter que le trafic de drogue est l'autre face des systèmes financiers. On ne peut pas comprendre aujourd'hui les banques au Mexique. On ne peut pas comprendre la privatisation extrême de toute la vie publique sans prendre en compte le narcotrafic, le blanchiment d'argent dans ce contexte de néolibéralisme rapace. Et pas seulement dans le Guerrero ou le Mexique, mais dans toute la zone d'Amérique latine qui n'a jamais été respectée par les pouvoirs domestiques factices et surtout par les puissances qui se sentent propriétaires de l'Amérique latine et qui ont fait de notre continent le laboratoire des pratiques les plus nocives du pire de ce système néolibéral. Mais ce qui est positif, c'est que ce mouvement, cette mobilisation autour d'Ayotzinapa tire vers l'avant, vers le haut. Il lui arrive le pire, ils disent dans le Guerrero, le pire Ayotzinapa. Mais nous ne sommes pas les seuls et nous sommes enfin unis. Ainsi, nous allons demander tout, c'est-à-dire refaire depuis la racine et de façon révolutionnaire tout le système politique. Et moi, je pense que c'est très positif. Ce n'est pas un mouvement de victimisation, mais un mouvement qui donne une nouvelle énergie à la vie politique de notre pays.
Algo tiene que pasar. Il va se passer quelque chose. Le Mexique ne peut ni rester comme ça,
igual,
ni retourner en arrière, à une situation antérieure au massacre.
Pero en mucho va a depender de la solidaridad y la atención
Mais
internationale.
Ça va beaucoup
en Francia,
dépendre de
Europe,
la solidarité et de l'attention internationale en France, en Europe et dans le monde pour que cette société se réveille, qu'elle soit soutenue et qu'elle puisse résister aux coups et aux attaques qui se profilent déjà. Parce que ce qui est en jeu au Mexique ne concerne pas que le Mexique, mais le monde entier. Le Mexique est devenu un nœud de concentration
de
réseaux de flux de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, qui aide à préserver un système international qui génère de plus en plus d'inégalités et d'injustices.
Una victoria para el pueblo mexicano tendría
Alors, une victoire du peuple mexicain aurait des conséquences et des influences dans le monde entier.
Una gran victoria
Ce serait une victoire des principes de base, comme ceux acquis par la Révolution mexicaine, les droits sociaux, les droits de l'homme, plutôt que la corruption et l'inégalité.
La corrupción y la desigualdad, ¿no?
Mi política tiene un solo objetivo, crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar su pago. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos.
¡Justicia!
Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, vient de publier une nouvelle enquête extra pure où il décortique l'économie souterraine de l'or blanc, la coke. Et comment l'économie mondiale néolibérale a surmonté la crise financière de 2008 grâce à la perfusion de l'argent des cartels, du crime organisé et des narcotrafiquants, notamment du Mexique, le laboratoire du pire. Mais patience, la tortue est lente mais implacable. Et à Ayotzinapa, l'endroit des tortues en langue nahuatl, la lutte continue. Avec Give, maintenant, on va au Luxembourg, où l'optimisation fiscale dérange.
Comme un bruit qui court.
Si pour vous, succès rime avec satisfaction personnelle, alors le Luxembourg est fait pour vous.
Luxembourg Leaks. Politik und Behörden sollen für internationale Konzerne die Steuerflucht organisiert haben.
Aquí, en Luxemburgo, muchas multinacionales han encontrado un filón para pagar menos impuestos.
Leaked documents have landed Luxembourg in hot water over
C'est un bruit qui court comme une traînée de poudre au Luxembourg. Le mois dernier, la presse internationale a sorti le scoop, preuves à l'appui, du rôle de ce petit pays dans la finance offshore. Résultat, des accords secrets garantissant aux grandes multinationales un havre fiscal, parfois moins de 1% d'impôts pour des milliards qui échappent aux États et donc aux citoyens. Alors quand l'affaire LuxLeaks éclate, c'est tout le Grand-Duché qui serre les rangs. Déni pour certains, inconfort pour beaucoup, cas de conscience pour quelques-uns. Parce que c'est vrai qu'ici, on n'a pas l'habitude de se demander comment 160 sociétés internationales peuvent avoir leur bureau dans un modeste bâtiment de 3 étages. Mais certains osent dénoncer l'hypocrisie ambiante, comme Benoît Majerus, un prof d'histoire à l'université, qui a coécrit une tribune manifeste dans le grand quotidien Luxemburger Wort, son titre « Pas en notre nom ». Son constat, nous devons nous rendre compte que notre état de droit a été piraté par des intérêts financiers. Et voilà que tout doucement, certains commencent à oser se poser le problème. Ce qui a été fait en notre nom n'est pas honnête. Ce qui est légal n'est pas toujours juste. Alors avec lui, petite balade dans ce paradis fiscal septentrional pour aller assister à une réunion organisée par quelques-uns de ces rares luxembourgeois qui se demandent comment mettre enfin la finance au service de l'intérêt général.
Oui, ce sont bien des milliards d'euros de recettes fiscales qui s'envolent, en effet.
Le Guardian en Grande-Bretagne, le Süddeutsche Zeitung en Allemagne ou Le Monde en France, au total une quarantaine de médias, publient ce matin la même enquête à charge contre le Luxembourg.
Le Luxembourg est bien un paradis fiscal.
On savait déjà que le Luxembourg était un paradis fiscal.
Le choc du jour, ce sont ces milliards d'euros qui échappent au fisc grâce à une pratique tout à fait légale au Luxembourg. Au Luxembourg, au Luxembourg.
Nous voilà. Nous voilà à Luxembourg.
Luxembourg, donc la ville est en fait sur trois collines. Nous, on va maintenant dans la vieille ville.
Donc c'est joli d'ailleurs, là on est sur un pont.
Oui, donc là vous voyez, donc ça c'est la vieille ville, ici encore les forteresses, ça c'est le palais de justice, la cathédrale, et puis encore plus à gauche, vous voyez, donc ça c'est des banques.
C'est l'îlot de l'activité bancaire.
Donc ça s'appelle le boulevard Royal.
Alors, Benoît Magérus, nous voilà donc dans le cœur vivant et palpitant de cette petite Luxembourg. Et il se trouve que ce paradis fiscal, maintenant, est dans une espèce de zone de turbulence. En tout cas, on se pose plein de questions dans les suites de l'affaire LuxLeaks, des accords des luxembourgeoises et ces grandes multinationales. Et quand on dit grandes multinationales, c'est pas n'importe qui. C'est Apple, Amazon, IKEA, Pepsi. Ces grandes multinationales payent 1%, parfois presque rien, d'impôts sur leurs activités dans le monde.
On a l'impression que l'administration luxembourgeoise a vraiment tout fait pour tricher le plus possible.
Vous, Benoît, prof d'histoire, vous vous êtes retrouvé à réagir à cette affaire. Donc, avec cet édito donc, qui a été publié et qui a fait pas mal de bruit dans le pays.
Oui, donc moi, la réaction est en fait due à la réaction du monde politique luxembourgeois qui, une fois que LuxLeaks est sorti, a fait une sorte de franc unique en disant « tout ça est légal ». Tout ça se fait à l'étranger aussi, donc on ne doit pas se poser des questions.
On est pris la main dans le sac, mais on a dit « j'ai rien fait de mal ». Quoi.
Oui, et les autres le font aussi. Donc peut-être qu'on triche, peut-être, mais les autres le font aussi. Et ce qui était important pour moi et aussi pour Luc Tocquedor, c'est de dire il y a des gens à l'intérieur du pays, de la société civile, qui ne sont pas d'accord. En tout cas, cette politique ne se fait pas en notre nom.
Et vous n'avez pas envie de vous sentir complice
oui,
de cette évasion fiscale.
Dire à un moment, on sait qu'on en profite et on est prêt à diminuer notre niveau de vie pour pouvoir vivre dans une société, un pays qui soit plus juste par rapport aux pays voisins, où les recettes fiscales diminuent parce que ces sociétés viennent ici.
C'est des cabinets d'avocats et de conseils. C'est quoi ? Athéna Capital, Time and Life, Fiduciaire Centra Fides, Servigest, Servimat, Études, Grasso Associés et iTunes. Dans ce petit bureau de rien du tout, de ce petit meuble qui ne paye pas de mine, iTunes réception au quatrième étage, ça veut dire que chaque fois, chers auditeurs, que vous téléchargez une vidéo, un extrait de musique, etc., et que donc vous payez, ça atterrit ici.
Ouais, donc ça atterrit, on a fait au Luxembourg, ça c'est quelque chose qu'à partir de l'année prochaine, théoriquement, c'est plus possible. Il y avait, ou il y a encore, je crois, jusqu'en 2015, 2016, beaucoup de sociétés qui sont installées au Luxembourg, comme Amazon ou iTunes. Et donc, vous imaginez que c'est des sommes énormes.
Qui échappent d'abord au fisc des pays, aux économies, c'est-à-dire.
Aux économies, donc, ce serait logique si vous achetez le livre en France, que c'est l'État français, d'une certaine manière, qui en profite et vous indirectement par les recettes fiscales de l'État français. Non, donc ça retombe ici au Luxembourg. Ouais, ça va. C'est énorme comme somme. Et comme le pays est petit, vous ne devez pas répartir cette somme entre la France et 66 millions d'habitants, mais vous devez le répartir seulement entre 500 000. Donc, pour Luxembourg, peut se permettre d'avoir des taux très bas et de faire ce dumping fiscal, parce que finalement, même si le taux est très bas, pour lui, ça vaut le coup.
Là, je ne veux pas dire, mais on voit plein de belles voitures. Hein. Il y a des Porsche, des Bentley, là-bas il y avait une grosse Maserati qui est passée.
Mais belle voiture. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui a changé. Moi je dis toujours que les Luxembourgeois sont pas nécessairement riches, mais ils sont très aisés. Depuis une vingtaine d'années, on voit qu'avec le développement de la place financière, il y a vraiment des gens maintenant qui sont pas seulement aisés, mais qui sont vraiment riches. Et on le voit notamment au niveau des voitures. C'est plus seulement entre guillemets des Audi, des Mercedes ou des BMW, mais on voit maintenant des voitures où on sait que les prix sont très très élevés. Le prochain espoir, c'est d'attirer des gens très riches, vraiment très très riches, pas pour le climat, pas parce qu'il fait tellement beau ici, ni que le paysage soit tellement magnifique. Mais
ou l'art de vivre, on dit aussi dans ces cas-là.
Oui, pour l'art de vivre, mais clairement pour des raisons fiscales.
Si pour vous, succès rime avec satisfaction personnelle, alors le Luxembourg, est fait pour vous.
Le Luxembourg.
Bon, allons voir cette réunion, justement, Benoît Majous. Etika attaque Luxembourg pour mettre enfin la finance au service de l'intérêt général. Conférence déjeuner.
Initiative alternative financière.
Bon, allons voir ces quelques enragés luxembourgeois qui s'opposent à l'évasion fiscale. Voilà la réunion. Ça a commencé, on se faufile discrètement.
Représente 700 000 milliards de dollars dans le monde. 700 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 12 fois le PIB de la planète.
Si on se met là, on ne parle pas trop fort. Nous voilà dans un petit groupe, on n'est pas très nombreux, une trentaine de personnes tout au plus. Des luxembourgeois qui sont contre le primat du financier sur le bien commun. Bonjour monsieur,
bonjour.
C'est nouveau que vous vous intéressiez à ces questions ?
Mais absolument, je suis un citoyen, je paye mes impôts, mais je n'y connaissais rien à l'économie et ça ne m'intéressait pas. Mais en tant que citoyen, je paye 35% d'impôts et quand j'entends qu'il y a les grosses sociétés IKEA qui n'en payent qu'un pour cent, j'ai dit il n'y a pas de justice.
1%, c'est ça hein ?
1%, 1%. Les grosses sociétés ont réussi à négocier et je vais aller voir mon conseiller des impôts pour essayer de négocier aussi... directement.
Je veux le même traitement.
Les impôts, oui. Mais quand j'entends que les gros ne payent, n'en payent pas et moi que j'en paye, je trouve que c'est un monde très injuste. Je vais m'arrêter là parce que
ça vous énerve.
Oui, très fort.
C'est quelle radio ?
Je suis France Inter.
Oui.
Et donc je suis venu un peu pour essayer de prendre des auditeurs à RTL, ici au Luxembourg.
Moi je suis le secrétaire général de Protinvest. Nous, on défend les intérêts des consommateurs et des utilisateurs bancaires au Luxembourg.
En fait, vous n'en profitez pas tellement, vous êtes les Luxembourgeois, de ces avantages fiscaux faits aux grands groupes internationaux.
Mais c'est la catastrophe parce qu'on a une perte d'image. Ça veut dire que les Luxembourgeois sont des gens très honorables. Nous ne sommes pas des crétins, comme on veut le dire de temps en temps. Mais il y a certains qui ont fait un système qui met notre pays dans le coin des salopards, pour dire un terme français, qu'on ne mérite pas du tout. Et celui qui a permis ça, bien sûr, c'est honteux.
Ouais. Et celui qui a permis ça, c'est M. Juncker, qui a été votre Premier ministre depuis 1995 jusqu'à l'année dernière. Maintenant, c'est notre président à nous tous, européens. Il est président de la Commission européenne.
Oui, mais M. Juncker a dit qu'on n'avait pas le choix avant. On a gagné de l'argent, mais aujourd'hui, ce scandale nous fait que du négatif. À mon avis, on va perdre des sommes énormes. Et les gens qui viennent seulement pour ne pas payer d'impôts, mais ils ne nous rapportent rien, mais ils salissent la réputation de notre pays et ça ne peut pas être continué.
Bonjour. Est-ce que vous avez lu sa tribune dans
Luxembourg à Vought.
Vought, Luxembourg à Vought.
Oui, j'ai lu cet article. Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'ai pensé qu'il a eu le courage de dire ce que moi j'avais dans le cœur aussi.
Ouais. Voilà.
Que ce pays vit aux dépenses des autres. Quoi, en fait. Ce n'est pas le seul, c'est vrai. Mais il faut assumer, il faut laisser le citoyen et la société civile en général pouvoir débattre. Parce que c'est ça le problème au Luxembourg. Ce n'est pas un pays qui a été habitué à se remettre en question. C'est une société très peu politisée. Tout le monde savait et tout le monde sait qu'on est très dépendant de la place financière. Et donc on a dû attendre cette pression extérieure. Donc,
c'est-à-dire LuxLeaks qui sort l'info.
Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive donc à pouvoir être un peu libre de débattre, mais attention. Et la seule façon de trouver des solutions, des alternatives et de diversifier l'économie, c'est de pouvoir être libre d'en discuter. Quoi. Sinon, on va rester là où on est.
Bonjour madame.
Je ne fais pas de commentaires sur ça.
Bonjour. Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
C'est pour France Inter.
Ah oui, non.
Non ?
Non, non.
Bonjour madame. Pour France Inter.
Non.
Non ?
Vous voyez, il y a encore du boulot pour libérer les Luxembourgeois de leur dépendance aux paradis fiscaux, comme certains sont dépendants aux paradis artificiels. Quelqu'un me disait même que le pays était comme un junkie, accro au flux financier qui prendra du temps à se sevrer. Mais en attendant, la mobilisation des Luxembourgeois est à suivre. Comme un bruit qui court, il me reste quelques secondes pour vous rappeler que le Radio Hit Yourself est chargé de plein de nouveaux sons. À vous d'aller sur votre site, sur notre site, et de les remixer avec des sons du Mexique et de Calais.
Et pour toutes les références, la programmation musicale, rendez-vous sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Vous pouvez également laisser vos commentaires. Tout de suite, après le flash, vous retrouverez Colin et Mauduit pour Si l'Amérique m'était comptée.